fort et reclus.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Fort et Reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance en Périgord-Noire. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 7 octobre et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant au programme ?
Un mouvement qui s'éveille à propos de la grève générale qui se construit en France en ce moment. Un reportage et des textes sur les exactions policières contre les participants à la semaine No Border à Bruxelles pour la liberté de circulation. La revendication d'un tag contre la France coloniale à Lille. Et un article de Rebetico sur les projections sauvages, le cinéma dans la rue.
Pour avoir droit à faire ton rond, à te dérouler dans ta maison, ta pays. Pour avoir droit à respirer l'air pur qu'empeste tout ton quartier, t'as payé. Pour avoir droit à faire pousser les mômes, t'aurais bien fait passer, t'as payé. Pour avoir droit à faire l'amour avec un sac et rien autour, t'as payé, si t'as payé, c'est que t'avais de quoi. Alors ne te plains pas. Pour savoir que le carnaval, ça se passe pas à Carnavéral, t'as payé. Pour savoir que la môme Vénus, ça peut se trouver dans l'autobus, t'as payé. Pour savoir que la margarine, ça tourne plus vite que Gagarine, t'as payé. Pour savoir que telle ou telle star sera télévue par telle star, t'as payé, si t'as payé, c'est que t'avais de quoi. Pour écouter à la radio dégouliner du Moreno, t'as payé. Pour lire dans un journal français que Margaret a ses anglais, t'as payé. Pour savoir que la Soraya va dire partout de la Pucha, t'as payé. Pour voir à la télé, moi, ça, l'État, c'est toi, l'État, c'est moi. T'as voté, si t'as voté, c'est que t'avais le choix. Alors, démerde-toi.
Fort et reclus à l'Elysée, un petit texte sur la gratuité, mais aussi sur comment on peut créer des événements, des zones d'autonomie.
Dans les rues, car elles nous appartiennent, n'est-ce pas ?
Donc on trouve ce texte dans Rebetico numéro 7.
Projection sauvage, une brèche dans le décor. Face aux campagnes, d'aseptisation menées tambour battant dans les centres-villes, là où les municipalités agissent sur le problème qui lie les jeunes à l'alcoolisme, ceci entre guillemets bien sûr, en fermant les bars dans les rues de la soif, ou encore partout où les bancs disparaissent et où nous sommes de circuler, projeter un film est une manière d'arrêter le temps, d'imposer un rythme d'effet de la routine habituelle livrée au flux marchand.
Ça et là, il s'agit d'ouvrir des brèches dans ce tissu épais pour laisser entrer l'imprévu, l'imaginaire et reprendre possession de l'usage de la rue, le temps pour commencer d'une projection. Le cinéma dans la rue s'organise assez simplement, si tant est qu'on ait pu se réapproprier le matériel nécessaire.
Les FALS et les hôpitaux sont bien équipés en vidéoprojecteurs et les boîtiers des feux de signalisation de chantier renferment les batteries adéquates.
Une batterie de camion pour alimenter un vidéoprojecteur et un lecteur DVD ou un ordinateur portable. Un transformateur d'énergie, une multiprise et un multimètre pour vérifier la charge des batteries. Pour le son, une paire d'enceintes alimentées par une deuxième batterie convient, mais une enceinte auto-alimentée 80 watts apporte plus de légèreté au dispositif. Enfin, un grand drap blanc pour ravaler une façade ou tendu entre deux feux de signalisation pour obstruer une rue. Un complice, logeant au deuxième étage au-dessus de l'endroit élu pour tendre l'écran, descend une couverture de son balcon, lestée par une chaussure à chaque angle, afin qu'elle recouvre le lampadaire inondant notre écran. Le noir est fait. Deux sacs en plastique masquent les caméras qui, désormais, ne nous observent plus. Il est environ 23 heures, la rue est bondée, la séance va pouvoir commencer. Une voix annonçant le début de la projection s'élève au-dessus du brouhaha de la rue, passante et étroite. Une foule s'amoncelle autour du projecteur. Face à une assemblée qui grossit, le patron du bar, qui voit sa terrasse envahie, assiste à la réquisition de quelques-unes de ses chaises. Il se pliera bientôt à ce qui fait loi. L'enthousiasme, procuré par la mise en scène autant joyeuse qu'instructive de Chaplin fraudant le train ou d'une autoréduction dans un supermarché. On explore mille façons de ne plus payer.
Alors, on trouve ce film sur YouTube. Vous tapez donc « S'organiser pour ne plus toucher au Grisby, salope ». Et donc, là, vous le trouvez.
Mille façons de ne plus payer en fredonnant avec quelques pin-up que « L'argent ne fait pas le bonheur, celui qui a dit ça est un sacré menteur ». Le premier film touche à sa fin, on balaie la place du regard pour décider si on peut en passer un deuxième, la voix semble libre. L'écran se rallume, on voit une, deux, puis trois, puis 10 personnes détenant des techniques plus ou moins inventives et drôles pour frauder le métro. Même s'il s'agit du métro parisien des années 80, quelques-unes des astuces révélées dans « bar » pourront bien encore nous servir. La marée chaussée vient de faire une apparition, il nous observe de loin mais visiblement ne compte pas intervenir. Le prochain film.
Alors, c'est « N'entre pas sans violence dans la nuit » de Sylvain Georges.
Ce film leur plaira sûrement. Il est question d'une manif spontanée à Belleville en 2005. Des sans-papiers réagissent à une rafle qui vient d'avoir lieu. Le ton monte, la foule s'épaissit. Les slogans « Non aux expulsions » fusent. Ils avancent vers les flics qui semblent désemparés. Des bouteilles volent vers eux. Ils se carapatent dans leur camion et s'enfuient. Une petite victoire dont le brin de force éprouvé se transmet à travers un morceau de drap. Les films terminés, on remballe le matériel dans deux ou trois sacs de voyage, tant que la foule ne s'est pas encore dispersée et on s'éclipse. Jusqu'à la prochaine fois. Le geste de projeter un film comporte cet infime décalage qui surprend le cours attendu des choses. En effet, il ne se passe presque rien, et pourtant, en peu de temps, des possibles s'ouvrent suffisamment pour permettre à un souffle de s'engouffrer par cette brèche de temps et d'espace qu'il nous plaît d'élargir.
Et donc, pour vous procurer justement les rébétitos, il suffit d'envoyer un mail à rebetito@riseup.net et là, vous mettez votre adresse et puis voilà, vous le recevez dans votre boîte aux lettres.
If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
MIA, third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.
Pourquoi j'ai tagué Nique la France coloniale sur commémoratif du cimetière du Sud à Lille.
Détail parmi tant d'autres, inscription rageuse parmi toutes celles qui s'étalent sur les murs de la métropole, mon cri de colère à l'encontre de la vieille France coloniale semble avoir ému la mairie de Lille et la presse régionale. Plusieurs titres de presse, entre guillemets, Nord et Clair, 20 minutes et Métro, pour ce qu'il m'a été donné de voir, se sont en effet empressés de parler d'un tag insultant à l'égard des morts, sans oublier de mentionner ce que prévoyait la loi à l'encontre de ce genre de geste. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, il me semble. Encore un peu et l'on comparait mon geste à celui des nazis allant profaner des sépultures.
Au lieu de relayer la version policière des faits, ces journalistes devraient se demander ce qu'une plaque rendant hommage aux morts de l'Afrique du Nord et ayant pour contour la silhouette de notre si bel hexagone peut avoir d'insultant dans un quartier comme celui de l'île Sud. Car comprenez bien que les valeureux morts en question avaient pour la plupart la peau blanche et tous en tout cas se battaient pour maintenir le joug colonial sur ce que l'on nommait alors l'Afrique française. Il n'est pas question, pas une seule seconde, de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui sont morts, parfois sous les coups de la torture.
Parfois adressés par ces mêmes morts qu'il conviendrait aujourd'hui d'honorer.
Pour reprendre la liberté que les intérêts politiques et économiques de l'État français leur avaient délibérément confisqués.
Il faut également être atteint de cécité pour ne pas voir que la France coloniale a aujourd'hui encore une actualité ravageuse. Les nouvelles nous le rappelle tous les matins, que ce soit sur le plan extérieur, avec le désastre humain, sanitaire et écologique organisé par Arriva au Niger, ou à l'intérieur de nos frontières, à travers la guerre raciste menée à l'encontre des immigrés, que ce soit par l'intermédiaire de la BAC ou des bureaux ou bourreaux de la préfecture, que les autorités compétentes n'hésitent pas à doubler d'une stigmatisation honteuse des populations musulmanes.
Et n'oublions pas non plus les sommets de la France-Afrique, le soutien militaire aux dictateurs corrompus, le discours de Sarkozy à Bamako, le débat sur l'identité nationale, ainsi que les petites phrases des différents ministres. Tout cela, nos journalistes de la presse régionale l'oublient vite. Mais quand on vend de l'information comme on vend une publicité, nul doute que l'on soit frappé d'amnésie. Le résultat est là. Tout acte de résistance se trouve systématiquement soupçonné de terrorisme, s'exposant de la sorte à la flicaille ou à l'intervention des militaires, comme au Niger.
Sur le plan politique, il n'est pas étonnant que de la gauche municipale réagisse si violemment pour une simple salissure, qu'elle est d'ailleurs parvenue à effacer en à peine 24 heures. En dehors des intérêts électoralistes, certains qu'il y a aménagé les associations d'anciens combattants. Je n'oublie pas que son représentant le plus charismatique de ces 30 dernières années, le dénommé François Mitterrand,
dont il n'est pas sûr que la statue trônant dans le parc Matisse reste indemne très longtemps,
que seule l'ignorance la plus crasse peut aujourd'hui amener à encenser, a un jour dit, ouvrez les guillemets, la Méditerranée coule en France comme la Seine coule à Paris. Fermez les guillemets. On connaît par ailleurs sa responsabilité dans le génocide du Rwanda, ce qui m'amène à dire que, plainte ou pas à mon égard, le Parti Socialiste est depuis longtemps l'ennemi des peuples colonisés.
C'est très simple. Vous ne voulez plus de tag insultant sur votre mobilier de colon ? Retirez-le. Et d'ici là, parce que c'est tout de même plus beau, guerre à la France coloniale.
C'est signé par un anonyme et on peut le lire sur Indie Media Lille. Et il date du 29 septembre 2010.
Zep ! Zone d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Parfois ministériel, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Affligeante l'évolution en 60 ans. Regarde à l'Assemblée, il y a que des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leurs projets, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes ils adorent le couscous et Cheikh Khaled, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohammed. Fais pas t'en étonner, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume de prolong. Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souvenirs, dans votre histoire dont vous êtes si fiers, omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'elle était antiraciste. Tu nous as promis l'égalité, tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure. Mais tu triches, tu récupères, comme avec la marche des beurs, manipulateur. Tu cours après l'électeur, mais on t'a démasqué, toi et ton parti d'usurpateur. Et à nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques, comme la connasse de Fouresse. Ils propagent, alimentent la haine du musulman, du banlieusard, avec leur discours stigmatique. Leur discours arrogant, insultant et méprisant, omniprésente leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser baïonner, on va pas lâcher l'affaire comme Elie du LKP. C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
Fort et Reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance, en Périgord noir.
Alors, la semaine dernière se tenait le camp No Border, dont on a parlé dans la dernière émission. Un rendez-vous d'une semaine à Bruxelles sur la liberté de circulation, en Europe et dans le monde en général. Ça a été l'occasion pour la police belge de montrer tout son savoir-faire et toute sa force. Donc on va vous lire des petits bouts d'un texte, enfin quelques extraits, trois grands extraits d'un texte collectif écrit le 2 octobre dans la nuit, donc après, à la sortie d'une garde à vue assez traumatisante. Donc ça s'appelle « Rapport minoritaire », un récit d'arrestation administrative, massive et indistincte, pour trouble à la tranquillité, avec en conclusion un retour critique sur la semaine No Border.
Tout d'abord, ici comme ailleurs, les arrestations préventives, comme à Copenhague, comme ailleurs, redeviennent partout en Europe la norme. Le délit d'intention et les arrestations en amont de toute violation de la loi ne sont plus du ressort de la science-fiction, mais du présent, notre présent. Et si les condamnations juridiques tarderont peut-être à se généraliser, les détentions interminables existent déjà et annoncent ce qui peut être à venir.
Avant la manifestation, donc celle du 29 septembre et du 1er octobre, plusieurs discussions ont eu lieu de différentes façons en se questionnant de savoir si la manifestation serait déclarée, si nous irions, pourquoi et comment. Pointant d'un moment à l'autre, d'une discussion à une autre, la dangerosité d'une telle manifestation, elle risque de finir tous et toutes arrêtés, car non déclarés et non autorisés dans Bruxelles, certains ignoraient même jusqu'au fait qu'elle ait été interdite. Dans des circonstances particulières qui sont celles de cette semaine et dans un contexte particulier, plusieurs d'entre nous, loin de dénier l'évidente nécessité que représente le besoin essentiel et même vital de nous affirmer politiquement sans aucune espèce d'autorisation, ont rappelé que tout n'est pas question que de bonne volonté, mais aussi de circonstances. La situation belge n'est pas la situation grecque, qui n'est pas la situation italienne, qui n'est pas la situation française ou espagnole. Et décembre 2008 ici, c'est pas le printemps 2006 là-bas, etc.
Nous devons, tout en préservant intact notre éthique et nos désirs, savoir faire germer l'anarchie dans des contextes et des configurations différentes. En clair, nous préoccuper au moins autant de nous-mêmes que le bassin dans lequel nous sommes plongés à tel ou tel moment, en tel ou tel lieu, dépasser la simple révolte existentielle.
La police s'est montrée pour sa part, comme le précisait la fichette dans nos cellules, comme un personnel, entre guillemets, spécialisé dans la gestion des personnes privées de liberté. Impassible, imperturbable, sadique et froidement violente.
Entre autres spectacles navrants d'autorité de pacotille, les prisonniers d'une cellule ont pu par exemple assister à la pitoyable et pathétique démonstration de virilisme en uniforme du grade. Monsieur Van der Smissen, bon, si je le prononce mal, c'est pas grave, qui, suivi de ses sous-flics, s'est alors pris au jeu de provoquer chaque prisonnier avec sa matraque sous l'épaule pour voir qui aurait l'audace de lui tenir tête. Le spectacle aurait pu être risible si l'individu n'était pas connu de plusieurs d'entre nous, notamment des manifestations contre les centres de rétention et pour la liberté de circulation totale en faveur des migrants. Comme un harangueur de troupes, galvanisant la haine de sa meute, est notoirement connu pour ses petites phrases racistes et autres crachats de misérables chiens de garde.
Entre autres situations insupportables, plusieurs individus, et en particulier des femmes qui ont résisté à la manière dont on les traitait. Si l'on considère que des insultes sexistes et un traitement de faveur, humiliant et même agressif, constituent, sans tomber dans le paternalisme observé chez quelques-uns des hommes, des violences supplémentaires à ce que constitue, de par le fait même qu'elles existent, une arrestation et une garde à vue. Donc ces femmes qui ont reçu des coups, qui ont été plaquées au sol, baffées avec des gants plombés lorsqu'elles l'ouvraient trop, devant les regards médusés et enragés, et sous les huées et les cris de plusieurs d'entre nous, alors en cellule. S'ajoutent également les camarades et compagnons éclatés à coups de genoux, de poings, de clés de bras et de gel. C'est une sorte de pâte urticante et brûlante dont apparemment est munie la police belge. De gel dans le visage. et dans les bus nous menant à nos geôles aussi, dans lesquels nous avons été sommairement jetés. Bien sûr, mélangés entre passants arrêtés, camarades, criant, quand d'autres choisissaient de garder un silence de défiance devant toute cette mascarade.
C'est les manifestants!
Vous avez rien fait!
Vous avez rien fait!
Qu'on puisse de l'anarchie et de la
destruction!
Allez,
allez,
solidarité! 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 Solidarité!
L'ultime majorité des arrestations n'a pas été si rondement menée pour seulement nous effrayer ou nous décourager de toute espèce d'action. Donc c'était dans un seul but pragmatique, celui de nous photographier et de nous ficher, suivi d'un au revoir.
Nous ne portons strictement aucun jugement de valeur, ni moral, ni même éthique sur le fait d'avoir voulu tenir cette manifestation. Nous disons seulement, camarades, amis, compagnons, compagnonnes, n'oublions pas qu'outre la solidarité à l'attaque, il y a aussi la préservation, comme on dit prévenir plutôt que guérir. Et le sens si recherché pour nous de la ruse et de la finesse, dans un monde aussi brutal et violent, et qui tend à se perfectionner dans son administration de la misère. N'oublions pas que nos énergies ne sont pas infinies, que nous ne sommes et ne serons jamais un État, et cela d'abord parce que nous ne le voulons pas, que nos ressources, comme nos forces et nos vies, sont toujours limitées, nos relations et notre capacité à construire une propagande efficace aussi. Mais brisons le mythe selon lequel toute stratégie d'adaptation est mauvaise, et reconnaissons que le sujet inamovible de réactivité et de souplesse dans nos initiatives, multiples, variées, créatives, est une stratégie qui, en plus de ne porter aucune puissance, nous conduira encore dans le mur, et peut-être plus rudement encore. Donc voilà pour ce texte collectif, trouvé sur Indymedia Bruxelles le 2 octobre. On écoute un reportage des camarades de Radio Canu, dont un reporter était sur place à Bruxelles. Voilà, c'est parti.
Le 25 septembre au 3 octobre, quand No Border a réuni entre 600 et 1000 activistes européens dans un camp au cœur de Bruxelles, en Belgique, pour une semaine d'action et de débat sur les migrations et les politiques migratoires. Dès le premier dimanche, la police a arrêtés et usés de violence, notamment avec la police montée à cheval lors de la manifestation d'ouverture du camp qui se déroulait devant un centre fermé. Puis la semaine s'est déclinée autour de trois grosses dates. Le mercredi 29, la participation à la manifestation syndicale européenne contre les mesures d'austérité en Europe. Le vendredi 1er octobre, un appel à une manif sauvage dans Bruxelles contre les centres fermés. Et le samedi 2, une manifestation autorisée et officiellement appelée par le No Border en soutien à tous les sans-papiers. Mercredi 29, manifestation syndicale européenne. La police isole une partie des manifestants du reste du cortège.
Monsieur, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? C'est pour une radio française. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe pour une radio française?
Il y avait les mondialistes qui étaient juste devant moi.
Les mondialistes, c'est qui ça?
C'est les gens qui sont tout en noir.
Ouais.
Et ils étaient juste devant nous.
Ouais.
Et alors, il y a les flics qui sont arrivés, ils ont pris la matraque, ils ont comme normal qu'ils rendent le coup. C'est pas des catholiques qui ont ramassé le type et on rend de l'autre côté. Il a répliqué, et c'est normal. C'est juste des sales fachos.
Qui ça sont des sales fachos?
Mais les flics, c'est des fachos.
Ouais. Et vous êtes d'une organisation?
Non, je suis pas de l'organisation. Je viens pour la première fois à une manifestation.
Oui. Et pourquoi vous êtes venu manifester?
Parce que, par solidarité, je n'ai rien à faire d'autre. Je travaille pas pour le moment. Parce que j'ai 64 ans.
Et vous savez ce que réclame cette manifestation? Vous êtes venu réclamer quoi, vous?
Moi, ben pour la solidarité, parce que ma pension, vous savez combien je vais toucher? J'ai 48 ans de travail. Hein. Je vais toucher 850 euros. Et qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Et j'ai travaillé pendant 48 ans. Ah, c'est Vito. Thomas, vous pouvez marquer, même vous pouvez le dire, Thomas.
Ok.
Je les emmerde, les flics.
Merci.
Malheureusement, la réaction de Victor n'est pas très largement partagée par les manifestants. Le responsable syndical de l'EGBL, notamment, dans le cortège, passait juste devant des arrestations violentes. C'est joliment illustré par sa désolidarisation active. Petit extrait issu du documentaire « Tous les uniformes ne sont pas bleus » sur la manif du 29 septembre que vous pouvez retrouver sur le site du New Border Camp ou sur Indie Media à Bruxelles. Et cette petite vidéo est devenue au fil de la semaine un petit peu mythique au sein du camp, à tel point que lors de la manif du samedi, une banderole s'intitulait ironiquement « Les policiers sont aussi des travailleurs ». Au final, sur cette journée du mercredi, quelques blessés et plusieurs centaines d'arrestations, mais qui ne donneront lieu à aucune poursuite judiciaire. C'est même une partie des manifestants et manifestantes, avec les avocats au cadre de la Legal Team, qui vont entamer une action en justice pour arrestation arbitraire. Le retour au camp s'est fait ce jour-là dans une certaine bonne humeur. Beaucoup de personnes ont pu manifester leur colère au sein de leurs cellules, se tenir les coudes et parfois même sérieusement endommager les murs qui les entouraient. Certaines autres ont déjà évidemment mal vécu leur enfermement, mais le pire était à venir. Le jeudi, un cadre collectif d'action éparpillé dans Bruxelles était prévu, mais il a malheureusement été annulé. Après 12 heures de garde-à-vue pour plus de la moitié des participants et participantes au camp, l'heure était plutôt au repos. Le vendredi, une manif sauvage était donc appelée en plein centre de Bruxelles, gare du Midi. Sans même prendre la peine de fermer la gare ni de boucler le quartier, les policiers se sont déployés et ont arrêté au faciès tout ce qui pouvait ressembler à des manifestants. On reviendra dans un futur reportage sur la répression qui s'est abattue ce soir-là, la violence des gardes à vue et l'arbitraire des arrestations. Le samedi, une manifestation autorisée était appelée par le No Border. Elle a réuni environ 1500 personnes, dont une immense majorité issue du camp, quelques personnes sans papier ainsi que des militants et militantes de Bruxelles. Il n'y a pas eu d'arrestation à ce moment-là. Au cours de la semaine, de nombreuses actions ont finalement quand même eu lieu, comme le lâchage d'une banderole contre Frontex dans l'aéroport, le caillassage d'un commissariat, le sabotage des serrures de l'Office international des migrations, l'attaque des locaux de différentes entreprises qui participent à l'Europe Forteress, telles que Stereo, Serco ou Sodexo. Vous pourrez trouver la liste plus complète sur le site des Brèves du Désordre ou sur Indie Media Bruxelles. Enfin aujourd'hui, mercredi 6 octobre, on était au rassemblement organisé contre la répression en solidarité avec les prisonniers politiques que va nous expliquer Nils, un militant du No Border.
Du coup, on est là devant le palais de justice. Tu peux m'expliquer ce que vous faites là?
On est ici avec des gens qui sont inquiets par la, répression politique et la violence policière de la semaine passée. Et plus précisément parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés, ils vont venir devant le juge aujourd'hui.
Et ils sont accusés d'avoir fait quoi?
Ils sont accusés d'avoir attaqué un commissariat de police le vendredi, donc après 5 jours de répression policière. Ils ont commis un délit là, mais il n'est même pas sûr que les gens qui sont au tribunal sont ceux qui ont fait les faits. Donc, parce qu'après les faits, la police, pendant toute la ville, ils ont arrêté des gens arbitrairement. Et donc, ce n'est même pas sûr que c'est des gens qui ont commis.
Et il y a combien de personnes qui se passent aujourd'hui au tribunal?
Ben, je crois qu'il y a 4 personnes qui sont encore détenues.
Dans ce rassemblement, un tract circulait à propos des événements du vendredi 1er octobre. 3 voix ont bien voulu se prêter au jeu de la lecture collective pour Radio Canyon.
Malgré tout, aux rebelles d'ici et d'ailleurs, les mots peuvent difficilement saisir une réalité. Les sentiments et les désirs dépassent toujours ce qu'un vocabulaire nous offre. Cependant, il est d'un intérêt vital de parler, de tenter d'exprimer ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Certainement dans les moments où la terreur de l'État et de ses forces de l'ordre cherchent à rendre tout le monde muet. Depuis des années, nous disons que pour penser et parler librement, il faut de l'espace et du temps. Et cet espace et ce temps ne nous sont jamais donnés. On ne peut que les conquérir nous-mêmes, l'arracher avec toute la violence à la réalité de « tu ne feras » et « tu dois ». Voilà pourquoi nous avons parlé et nous parlons de révolte, d'actes par lesquels nous nous créons l'espace pour vivre, pour donner une expression à nos désirs de liberté qui ne tolèrent point la misère nauséabonde et la laideur de ce monde. La semaine dernière, l'État a choisi de remplir tout espace possible avec des uniformes, des fourgons, des policiers en civil, des cellules et des mauvais traitements. Déjà, l'État supporte à peine que les anarchistes incitent en mots et en actes à la révolte, mais cette semaine, tout a été déployé pour empêcher toute rencontre entre les différentes rébellions qui fermentent la conflictualité sociale à Bruxelles. Et l'autorité a parlé le langage le plus simple à sa disposition, la terreur due à une violence systématique.
La manifestation annoncée du 1er octobre contre les centres fermés, contre les prisons et les frontières, contre l'État ne devait pas avoir lieu à aucun prix. Une interdiction d'attroupement a été décrétée dans 4 communes bruxelloises et pendant qu'une force policière imposante arrêtait toute personne tournant autour de l'endroit du rendez-vous, d'autres escadrons gardaient les quartiers et les stations de métro d'une poigne de fer. Les alentours des prisons de Forêt et de Saint-Gilles ont été hermétiquement fermés, tandis qu'au cœur d'Anderlecht, des policiers cagoulés patrouillaient, les mitraillettes à la main. Des centaines de personnes ont été arrêtées, préventivement. Des dizaines ont été humiliées, maltraitées et frappées dans les commissariats. Disons-le clairement, l'État n'a pas peur d'une poignée d'anarchistes, mais craint une possible contagion sociale à laquelle les révolutionnaires œuvrent de jour en jour. Depuis longtemps, Bruxelles semblerait une poudrière sociale où on cherche à mater les tensions sociales à coups de plus de police et de plus de blessés ou de morts du côté de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, engagent la confrontation. Néanmoins, les tensions sociales continuent à s'exprimer de manière radicale. Des émeutes récurrentes dans les quartiers, aux mutineries dans les centres fermés et les prisons, des attaques ciblées contre les structures de l'État et du capital, jusqu'à une hostilité qui continue à se répandre contre tous qui portent l'uniforme de la répression. Probablement, la manifestation annoncée du 1er octobre était une des possibilités de rencontre entre les différentes rébellions et les idées anti-autoritaires. Et cette rencontre a été écrasée. Malgré la pacification militarisée des derniers jours, nous continuons à diriger notre attention ardente envers cette poudrière sociale, en sachant que chaque occasion peut être la bonne pour mettre le feu à la mèche. Et là où la proposition d'une manifestation s'est heurtée à des obstacles presque infranchissables, d'autres pratiques et activités sauront se frayer un chemin.
Malgré les murs policiers qui cherchent à nous tenir séparés, nous continuons à penser que la rencontre entre les différentes rébellions reste possible, souhaitable et nécessaire. Aucun racket répressif de la part de l'État ne nous fera renier cet enthousiasme. Malgré le fait que l'initiative nous ait été arrachée ces derniers jours, nous sommes déterminés, avec le cœur et la tête, à reprendre l'initiative dans nos propres mains. Malgré tout, nous continuons. Rien n'est fini. Les possibilités sont toujours là, prêtes à être saisies. À l'heure actuelle, 4 compagnons résident derrière les barreaux de la prison de Forêt, accusés de complicité pour une attaque d'un commissariat bruxellois la nuit du 1er octobre. Faisons en sorte qu'ils sentent notre affection et notre solidarité. Bruxelles, 5 octobre 2010.
Solidarité ! Solidarité ! Solidarité ! Solidarité !
forêt reclus à l'Elysée. Sur internet, c'est sur radioperigueux103.com. Et pour ce qui est du blog de l'émission, des archives, du contact pour avoir des retours sur les écoutes des émissions, c'est l'audioblog d'Arte Radio, donc audioblog.arteradio.com/forêt reclus à l'Elysée. Nous sommes le jeudi 7 octobre. Aujourd'hui, il y avait des manifs spontanés de lycéens dans plein de villes, de petites et moyennes villes en France, avec des blocages, des blocages de lycée, des blocages de la circulation, etc. Mardi prochain, c'est la grève générale qui arrive. Donc, on va vous lire un petit bout de texte, un texte intéressant sur quelques évidences par rapport à cette grève générale et à comment ça se construit, comment ça se fait concrètement.
La question du départ à la retraite à 60 ans est celle qui cristallise un mécontentement plus général de la classe ouvrière. Soulignons que le jour même où les députés votaient la fin de la retraite à 60 ans, on apprenait que 5 salariés s'étaient suicidés ces 2 dernières semaines à France Télécom. Voilà bien la réalité du salariat en France aujourd'hui. On veut nous faire bosser plus longtemps dans des conditions de plus en plus inhumaines et insupportables, avec des salaires qui ne nous permettent même pas une vie décente et des menaces permanentes de licenciement. On veut nous faire travailler plus longtemps, alors que des millions de jeunes et de moins jeunes n'ont pas d'autre perspective que le chômage ou au mieux un contrat précaire. C'est bien tout cela qu'il y a dans la tête de chaque travailleuse et de chaque travailleur lorsqu'il s'agit de descendre dans la rue et de se mettre en grève sur la question de la retraite. D'ailleurs, dans bien des boîtes, des assemblées générales ajoutent aux revendications sur la retraite d'autres revendications plus spécifiques comme celle de la pénibilité dans les ports et docks, les salaires ou l'emploi.
Loin de mettre en avant des mots d'ordre clairs comme le retrait de la loi et la garantie pour chaque être humain de pouvoir vivre décemment sans travailler à partir de 60 ans, les directions syndicales, donc les bureaucraties syndicales, dans leur lettre ouverte à Sarkozy et à Fillon, donc ce texte, il a été écrit le 23 septembre et réactualisé, enfin avant le 23 septembre et réactualisé le 26 septembre après la dernière grève, la dernière journée de grève. Donc, dans cette lettre ouverte à Sarkozy et Fillon, les directions syndicales semblent implorer le gouvernement à leur donner quelques miettes lors d'une nouvelle négociation. Un scénario semble déjà se dessiner dans les intersyndicales nationales. La CFDT attend la première « avancée », entre guillemets, genre la prise en charge financière par le patronat de l'euthanasie des ouvriers de plus de 60 ans qui ne peuvent plus travailler, pour signer un accord. La CGT dénoncera cette signature, tout en expliquant à sa base qu'à cause du départ de la CFDT de l'intersyndicale, la lutte devient impossible. Et enfin, SUDFO, qui lance des appels à la grève générale reconductible, dans le but de vendre quelques cartes, mais sans chercher à construire le rapport de force. Va-t-on encore une fois revivre ce même scénario ?
Construire le rapport de force vers la grève générale reconductible ? Dans le contexte actuel, une partie de la gauche syndicale recommence une stratégie rejouée à chaque mouvement social et qui n'a jamais porté ses fruits. Lors des manifestations et des journées d'action, il s'agit d'implorer les bureaucraties syndicales d'appeler à la grève générale, puis, lors de ce qui est parfois appelé Assemblée Générale Interpro, de déplorer que cet appel n'ait pas suivi et dénoncer la nouvelle trahison des dirigeants syndicaux. Soyons clairs, on peut les implorer, les dénoncer ou les supplier. Les directions des syndicats ne construiront pas un mouvement d'ensemble du monde du travail. Mouvement dont elles ne veulent surtout pas. Compter sur les directions syndicales pour construire le nécessaire coup de colère du monde du travail, c'est finalement tout aussi illusoire que compter sur l'Église catholique pour combattre l'homophobie. À l'inverse, qu'il s'agisse de juin 1936 ou de mai 1968, ces deux grèves générales n'ont jamais été appelées par les syndicats. Et quitte à rappeler des évidences, une grève, qu'elle soit générale ou non, illimitée ou non, ne se construit pas dans des AG interpro qui rassemblent une poignée de militants convaincus, mais dans nos lieux de travail. Pour qu'une AG Interpro existe, il faut déjà qu'existent des assemblées générales par entreprise ou secteur d'activité. C'est dans ce sens-là que se construit un mouvement, depuis l'atelier ou le service, vers l'ensemble du monde du travail, et non pas l'inverse.
Aussi, pour construire ce rapport de force, pour aller vers cette grève générale, la première tâche de chaque militant et militante doit être de mobiliser ses collègues, d'organiser des AG dans son lieu de travail, et si la grève illimitée peut y être décidée, de constituer un comité de grève, élu, révocable et contrôlé par l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de la boîte, syndiqués ou non. Et rien ne doit empêcher dans ces AG d'ajouter des revendications spécifiques à l'entreprise. Si une victoire face au gouvernement redonnerait confiance à l'ensemble de la classe ouvrière pour ses luttes quotidiennes, on peut aussi profiter du climat général pour gagner sur telle ou telle revendication, que ce soit sur les salaires, l'emploi, le poids de la hiérarchie aussi, qui est la principale cause de la pénibilité pour la majorité des salariés. Il y en a d'autres, bien sûr.
Parmi les évidences toujours et sans mépris pour aucune catégorie de salariés, il existe des secteurs plus stratégiques que d'autres. La décision de partir en grève illimitée dans des grandes usines, dans les transports ou dans les raffineries n'est pas équivalente à la même décision prise par des enseignants. Si on compare 1995 qui a abouti à une victoire pour les salariés et 2003 qui s'est soldé par une défaite, dans le premier cas, ce sont les cheminots qui ont joué le rôle de moteur du mouvement, alors qu'en 2003, ce sont les salariés de l'éducation. Bloquer les transports par la grève, c'est bloquer l'économie. Il en serait de même si c'était les ouvriers des raffineries, par exemple, qui se mettaient en grève illimitée. Dire cela, ce n'est pas appeler les salariés de secteurs moins stratégiques à ne rien faire et à attendre passivement que d'autres se mettent en lutte. Un intérêt du vote de la grève illimitée, c'est de donner du temps à chaque gréviste, libéré ainsi du travail salarié, pour devenir un militant de la grève et de militer pour son extension. Lors du mouvement contre le CPE, un des éléments qui a permis la victoire, c'est que des jeunes soient allés discuter avec les travailleurs aux portes des entreprises et ont fait en sorte que le mouvement ne reste pas cantonné aux lycées, LEP et universités et touche aussi le monde du travail.
Voilà en gros les deux axes qui devraient mobiliser l'énergie de celles et ceux qui veulent aller aujourd'hui vers la grève générale illimitée. Dans un premier temps, mobiliser dans sa propre boîte les collègues, faire des journées d'action nationale des succès si l'on est dans un secteur ou une entreprise où la grève illimitée est décidée, utiliser ce temps disponible pour travailler à l'extension du mouvement en allant vers les autres secteurs du monde du travail. Donc c'est un texte de Camille Boudjac, de l'initiative communiste ouvrière, qui est daté du 26 septembre. Donc à ce jour, 7 octobre, on l'a dit, les lycéens étaient nombreux à se bouger aujourd'hui.
À bloquer justement les lycées.
Il y a aussi autour de Marseille, à Marseille même, une ville qui est un peu en lutte dans tous ces aspects, quoi, depuis déjà pas mal de temps. Ça se durcit avec le blocage de raffineries, de ports, etc. Et ce qu'il y a aussi, c'est que donc là, ce qu'on a un peu senti dans ce texte, c'est que les bases syndiquées ou non, finalement, ont contraint les instances dirigeantes syndicales à émettre des préavis de grève reconductibles. Donc ces préavis se multiplient. Donc pour en détailler quelques-uns, ceux dont on a eu connaissance. Donc il y a tout ce qui est transport, SNCF, RATP à Paris, les TCL à Lyon, les ports ZEDOC, on l'a dit, les routiers. Donc tout ça, c'est des préavis de grève reconductibles à partir du 12 octobre de la prochaine journée, mardi prochain. Il y a aussi tout ce qui est à partir des certaines raffineries, aussi le secteur donc les Total, le secteur de la chimie, de l'énergie. Il y a aussi le secteur de l'éducation, la ville de Paris, des préavis pour Pôle emploi aussi, des hôpitaux, pour France Télévisions et Radio France, enfin. Donc voilà, on va...
Grève générale le 12.
Grève générale le 12. Et...
On remercie Fabrice à la technique.
Et on se quitte et on revient sûrement pour parler de cette grève.
Et Welga générale, on va dire.
À bientôt à tous.
À bientôt, dans 15 jours. Thank you.
para trabalhar o que está feina, o enapa se está, o que está feina, 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 o que está ¡A los que nos pisan! ¡A los que nos pasan por encima! ¡A los que nos quieren exprimir!